Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Débrief de choix ce soir, chers amis, avec Claudia Cohen qui est avec nous. Salut. Bonsoir. Claudia, journaliste au Figaro. À tes côtés, c'est Jérôme Colomba. Salut Jérôme.
Bonsoir, bonsoir.
Tout bronzé. Ça va, ça s'est bien passé les vacances?
Écoute, ça va, c'est terminé. Bah, voilà, pour certains, ça commence.
Ah bah, si t'es là, c'est que c'est terminé, mon grand. Journaliste, créateur de podcast, du podcast Monde Numérique, et de temps en temps en vacances, ça peut arriver. Hein.
Oui, pas souvent.
Pas souvent. Frédéric Simotel est là. Salut Fred.
Bonsoir, salut à tous.
Voilà, journaliste à BFM Business et en visio, il est avec nous. C'est Bruno Guguier-Minetti. Salut Bruno.
Bonjour de Montréal.
Comment vas-tu, Bruno?
Ah ben ça va très bien, moins bronzé que Jérôme, mais bon.
Bah écoute, oui.
Ça va aller.
Bah on peut bronzer au Québec sur un malentendu, non? Enfin non,
non, mais quand même, plus que sur un malentendu. Aujourd'hui, il fait très beau. Vous savez que quand il est 20h à Paris, il est toujours 14h au Québec.
Ah voilà, c'est ça.
Et c'est plein soleil aujourd'hui.
Parfait. Bruno Guguier-Minetti, qui est journaliste, animateur de son carnet de l'actualité numérique que vous pouvez télécharger. Deux podcasts à télécharger. Enfin, trois, j'ai envie de dire. Tech & Co, voire quatre. Tech & Co Business. Oui, il ne faut pas que je te froisse non plus. Tech & Co, le monde numérique de Jérôme et le carnet de l'actualité numérique de Bruno Guglielminetti. Alors, l'actualité, on va passer une petite demi-heure sans doute sur Apple, avec à la fois les annonces de ces nouveaux iPads. On va retrouver Mélinda dans une seconde. Apple qui développera aussi des puces pour exécuter des logiciels d'intelligence artificielle dans les data centers. Intéressant aussi ce sujet. Puis, tout à l'heure, Jérôme nous racontera ses essais des deux produits high-tech un peu tendance en ce moment, les iPin que tu as testé longuement. Tu m'as même fait une visio pour montrer les boîtes et tout, en me disant, tu te rends compte, je suis en train de tester les iPin, tu nous diras ce que t'en penses.
Oui, au début ça me plaisait, sur la fin c'était un peu plus dur.
Et tu as testé le Rabbit aussi.
Oui, ouais.
Il y a peu de gens qui ont testé ce truc là hein.
Oh, ça commence à... Bah oui, parce que c'est disponible, les deux produits ne sont disponibles qu'aux États-Unis.
Donc, voilà. Donc ce sera tout ça dans quelques instants et puis beaucoup d'autres sujets. Mais dans l'immédiat, nous retrouvons en visio Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Salut François, bonsoir tout le monde.
Voilà, journaliste à la rédaction de Tech & Co, Mélinda d'Avansoulas, qui a vécu la keynote d'Apple concernant les iPads. Alors tu es à Londres, parce que c'est vrai qu'en général tout se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais là je pense que Apple a dû faire un petit event européen. Que penses-tu de ces annonces? Je crois qu'il y a eu deux iPads hein, présentés, la nouvelle version du R et la nouvelle version du Pro, c'est ça hein?
Oui, alors, je ne sais pas par lequel tu préfères qu'on commence.
C'est au choix, tu fais comme tu veux.
Alors, l'iPad Air, on s'attendait à ce qu'il soit un peu mis à jour parce qu'il était toujours sur la puce M1. Alors, c'est la puce maison qui est très puissante. Mais aujourd'hui, vous voyez, on a passé M2, M3. On va parler tout à l'heure de la M4. Donc, il était temps qu'il aille un peu plus loin. Donc, ce sera la puce M2, on pourrait dire presque seulement. Mais l'intérêt de l'iPad Air, c'est surtout que désormais, il a le droit à un grand écran. Et un grand écran comme l'iPad Pro. Donc, on aura du 11 pouces ou du 13 pouces. Alors, c'est pas anodin comme annonce parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, si vous vouliez un iPad très, très grand, vous étiez obligé de prendre l'iPad Pro, qui a quand même un prix conséquent.
Ah oui.
et des fonctions qui n'étaient pas forcément utiles pour tout le monde. Donc là, d'avoir la possibilité d'avoir un iPad Air qui est quand même un excellent modèle, avec une dalle beaucoup plus grande, ça va ouvrir, à mon avis, les ventes à beaucoup plus d'utilisateurs. Donc ça, c'est pour l'iPad Air, c'était la bonne nouvelle, avec aussi un prix d'entrée de l'iPad Air qui baisse un peu, faut quand même le noter, c'est suffisamment rare pour être signalé, il perd 70€ quand même en France. Mais bon, évidemment, l'intérêt, c'était l'iPad Pro, c'est ce qu'on attendait. L'iPad Pro qui arrive vraiment, relooké. Un nouveau design, il est beaucoup plus fin. Alors, on nous a dit, il faudrait quand même qu'on compare, mais je pense que c'est vrai. C'est le produit Apple le plus fin jamais conçu.
Oui.
Pour vous donner une idée,
plus
c'est 5,3 mm.
D'après ce que j'ai compris.
Oui. Plus qu'on oublie ça, mais l'iPod Nano qui avait l'air tout petit, il a encore plus fin. Alors, ce qui est très drôle, c'est que l'iPad Pro 13 pouces, qui s'appelle plus 12,9, qui s'appelle 13 désormais lui aussi, il fait 5,1 mm, il est plus fin que son petit frère de 11 pouces, parce qu'il y avait évidemment plus de place pour la batterie qui a pu être beaucoup plus fine. Donc, moi je l'ai pris en main, il est vraiment très 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 fin, c'est assez impressionnant, ça lui donne presque plus de volume, il a l'air encore plus grand qu'avant, alors que c'est quasi le même, mais surtout il a un écran OLED qui est magnifique, et à l'intérieur, ce qu'on attendait, la fameuse puce M4 qui a été annoncée pour l'occasion.
Donc le top du top,
c'est la nouvelle
puce
la plus puissante.
Voilà, puce
c'est la plus puissante aujourd'hui du marché. Elle n'est pas dans un MacBook. Elle n'est pas dans un MacBook, ni Air, ni Pro. Elle est donc dans un iPad. L'iPad Pro, c'est le modèle le plus puissant aujourd'hui de la gamme d'Apple. C'est ça qui est assez drôle.
Ouais, c'est un puissant. Donc, en théorie, il est même plus puissant qu'un MacBook Pro ? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça ?
Alors ça, je pense que tous ceux qui vont l'avoir en main prochainement et qui vont pouvoir faire des benchmarks vont s'amuser à comparer la gamme M3 la plus puissante, donc qui doit être le M3 Max, parce que je crois qu'il n'y avait pas eu de M3 Ultra, et le M4. Normalement, ça devrait être un peu plus puissant, puisqu'on est passé à la génération suivante, même si la puce M4 toute seule sera l'entrée de gamme de ces nouvelles puces. C'est un iPad, n'oublions pas que c'est un iPad, c'est une tablette tactile qui se retrouve ultra puissante. Ouais. Donc ça, c'est quand même une info, c'est pas anodin. On sait que le marché des tablettes devient extrêmement concurrentiel. Alors l'iPad est toujours leader loin devant, mais il y avait quand même besoin, je pense, de remettre un petit coup pour rappeler que les ténors de la tablette tactile, c'est Apple, et que là, l'iPad Pro, avec une puce M4, franchement, vous allez pouvoir faire à peu près tout. Je pense. Je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire.
Et même c'est Tim Cook qui a ouvert cette keynote. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, enfin, je l'ai parcouru. Qui disait oui, c'est la plus grosse annonce iPad jamais vue par Apple. Enfin, etc., etc. Mmh. Tout ça dans un contexte un peu compliqué pour les iPads, parce qu'on en parlait hier, Fred, et je vous avais sans doute vu les chiffres, les résultats financiers d'Apple. Hein.
Oui.
L'iPad se casse la figure, tout comme l'iPhone d'ailleurs. Donc, il était tant aussi, je pense, important pour Apple de renouveler un petit peu, d'épater le chaland, de sortir de nouveaux produits pour rebooster les ventes, non, Melinda?
Oui, je pense que c'est le message. On s'est tous dit quand il y a eu l'annonce de cette keynote, c'est une keynote au mois de mai, à un mois de la conférence des développeurs, on a très vite parlé de cette puce M4 qui allait être annoncée là, alors que normalement on le sait, les nouveaux processeurs sont annoncés lors de la conférence des développeurs, puisque ce sont les développeurs derrière qui vont mettre presque le plus à profit les puces. Là, tout était un peu bizarre. Et puis, en fait, quand on voit l'événement aujourd'hui, on voit le message qui a été passé avant la conférence, parce que nous, on avait Greg Joviak qui était là pour annoncer et qui, pareil, nous a promis que ça allait être un grand jour pour l'iPad. Tim Cook, dans la vidéo, qui a promis que c'était le plus grand jour de l'iPad. Oui, il y a besoin de redonner un peu de peps aux iPads. C'est pas pour rien qu'il y a un iPad Air XL qui arrive. C'est pas pour rien que l'iPad, on oublie, mais l'iPad 10e génération, le modèle d'entrée de gamme, baisse. C'était aujourd'hui le jour de l'iPad. Il fallait redonner un coup de boost à tout ça, relancer le marché, rappeler qu'on est là. Il n'y a pas plus puissant aujourd'hui que la puce M4 sur le marché. C'est quasiment sûr. La puce M3, c'était déjà ça. Mmh. Les autres tablettes qui vont arriver, même sous Snapdragon, elles ont un peu de soucis à se faire pour les gens qui vont rechercher de la puissance pour tout faire.
Voilà, tu parlais de Greg Joviak, qui est le ponte marketing d'Apple au niveau monde. Apple qui est tout excité, évidemment, comme à chaque keynote, bien évidemment, ils sont très heureux. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont annoncer l'IA, les amis ? Alors là, Tim Cook va faire des saltos arrière, c'est pas possible. Déjà, pour deux petits iPads, c'est la fiesta. Alors imaginez quand on va avoir un Siri qui va comprendre ce qu'on va lui dire. Ça va être génial.
Moi, j'ai une question pour Melinda. Melinda, est-ce qu'ils ont montré leur tableau traditionnel de puissance, consommation d'énergie, tout ça, en montrant que la M4 consommait deux fois moins et en étant deux fois plus puissante ?
Non, enfin, on n'a pas eu vraiment de tableau. On a eu des informations pour évidemment expliquer que c'était beaucoup plus puissant que la M3. Et souvenez-vous, l'ancien iPad Pro était sous M2. Donc on nous a dit que oui, ça allait être 50% plus puissant et tout. Mais finalement, sur cette puce M4, on n'en a pas appris tant que ça. Par exemple, on attendait beaucoup d'informations autour de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien eu. Parce que le seul message qu'on a eu, c'est Apple qui nous a rappelé. iPhones, dans les puces A, la fameuse partie Neural Engine dont on nous parle souvent. C'est la partie intelligence artificielle d'Apple. Oui. C'est présent dans les iPhones depuis très longtemps. C'est ce qui permet, quand vous ouvrez votre téléphone, qu'il sache exactement ce que vous allez vouloir. En fait, d'être capable d'être proactif sur ce que vous voulez faire. Il n'y a pas d'IA générative.
Pas d'IA générative, mais ils ont quand même rajouté des cœurs GPU à l'intérieur du M4.
Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, on a compris qu'elle allait être capable de tout, cette puce, qu'il y a un potentiel dingue dedans. Mais on va le savoir au mois de juin, parce qu'il fallait quand même garder des annonces pour le mois de juin.
Oui.
Parce qu'il y a des produits qui vont arriver avec cette puce M4, il y aura des MacBooks, c'est une évidence. Et puis, les développeurs, on leur dit quoi si on leur dit tout, si on dit tout à une conférence iPad ? C'est ça qui était rigolo dans le message aujourd'hui, c'est qu'il fallait en dire beaucoup, mais sans en dire trop. Et je vous rappelle, en français, le mot d'ordre de la keynote, c'était « imaginer ». Alors, c'était pour dessiner avec l'Apple Pencil nouveau qui vient d'arriver, mais c'était aussi pour imaginer tout ce que vous allez faire après avec la puce M4.
Alors, Mélinda, parle-nous de ce nouveau stylo. J'ai l'impression que c'est le stylo de James Bond. Il y a une petite vidéo pendant la keynote, vous l'avez vu, où on a une vision à l'intérieur du stylo. On a l'impression d'être dans un... Vous savez, les trains hyper rapides, là, voilà, l'hyperloop, avec plein de capteurs, plein de systèmes tactiles, etc. Ce stylet, bon, qui coûte $120, je crois, hein. Donc, bon, voilà, c'est pas donné.
Il est au même prix, hein. Il est au même prix que l'ancien, quasiment. Alors, moi, j'ai un peu joué avec. C'est rigolo parce que c'est vraiment tout ce qu'on a envie d'attendre d'un stylet. C'est dans les premiers usages qu'on a eu. Alors il y a en effet dedans, il y a un gyroscope, il y a un moteur haptique qui fait que vous allez avoir des vibrations quand vous en servez. On peut presser dessus pour avoir d'autres options. Alors si vous dessinez par exemple, ça va ouvrir l'espèce de boîte à outils qui vous permet de choisir entre le stylo, le feutre et tout ça. Mais ça a aussi des avantages dans d'autres logiciels type Adobe pour dessiner, mais aussi pour, si vous faites de la création, pour bouger des éléments. Vous allez pouvoir donner un mouvement aux éléments. Parce que on peut, comment dire, alors je vais pas dire rotationner, c'est pas très beau, mais bouger légèrement l'Apple Pencil entre les doigts et ça va changer ou le trait du dessin ou tourner les éléments que vous êtes en train de bouger. D'accord. Il est beaucoup plus intuitif, il est beaucoup plus puissant. Alors il ne marchera qu'avec l'iPad Pro et l'iPad Air des nouvelles générations qui ont été présentées. Mais franchement, il y a un potentiel, je pense, pour les plus créatifs, ce qui n'est pas mon cas, assez dingue avec.
Oui, parce qu'évidemment, ce stylet ne marche qu'avec les nouveaux iPads. Bien sûr, si vous avez l'ancien modèle, bah écoutez, il pourra vous servir à vous gratter.
Vous resterez avec les anciens.
Voilà, c'est ça. On peut pas téléphoner avec le petit stylet, hein, quand même. Ils sont pas allés jusque-là.
Non, toujours pas.
Non. Mais en revanche, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis en fait la fonction localisée. Et ça, je trouve que c'est plutôt malin. Tout comme les AirTags ou les AirPods, si vous perdez votre stylet, vous allez pouvoir le localiser maintenant de manière précise avec votre iPhone.
Donc, on peut localiser le dernier endroit où il était associé à l'iPad, c'est ça, non?
Et je crois que c'est comme un peu tu sais, les AirPods, il y a comme un petit composant qui va capter
la boîte des AirPods.
Oui, la boîte des AirPods, bien sûr. Je crois, hein, Mélinda, tu peux nous confirmer ça ou pas?
Que l'Apple Pencil Pro, oui, il a la fonction localisée. Enfin, ce qui est Find My, donc on pourra éviter de le perdre. C'est pas mal parce que le gros problème des stylets, alors ça, c'est pas seulement chez Apple, c'est valable chez tout le monde, c'est qu'en général, on ne sait pas où le mettre. Perd extrêmement facilement. C'est... Là, il pourra être, en effet, il a la fonction localisée. Donc ça, moi, je trouve que c'est la petite fonction, c'est la petite ligne dans les informations qui m'a bien plu.
Je me souviens, c'est un débat
qu'on a j'en ai, je ne sais jamais où je les ai posés.
Ça fait des années avec Jérôme qu'on a ce débat et t'étais très énervé parce que tu savais pas où
Très énervé. C'est bourré de technologie. Et ce truc-là, on ne sait jamais où le mettre.
Oui. Et là, il est collé, non? Il peut se coller, je crois, sur
le rebord de la table.
Il est monté. C'était déjà le cas. Et si tu te contentes de ça, tu ranges ça dans ton sac, tu es sûr de ne pas retrouver le stylet.
Oui, parce que.
Au mieux, il est au fond de ton sac. Au pire, il est tombé dans le comptoir.
Comme ton charcutier, tu mets derrière l'oreille.
Oui, c'est une option.
Voilà, c'est le côté pratique breton de Fatima. Tout de suite qui ressort. Merci beaucoup, Mélinda, pour toutes ces précisions.
Merci à vous.
Voilà, depuis Londres, où une poignée de journalistes étaient présents pour vivre cette keynote qui était bien sûr préenregistrée. Hein,
Elle était triste, souvent. Cette keynote.
Bah, elle était, on va dire, très, très efficace, mais voilà, il n'y avait pas. Ces trucs-là enregistrés, il n'y a plus d'âme, quoi. Voilà,
tout d'une est part,
au cordeau, c'est au cordeau.
Exactement, c'est au millimètre, la musique était assez ringarde. Et en plus, je trouve, moi, j'étais là à la place de ces pauvres gens qui étaient pour la 400 millième fois en train de dire amazing, fabulous, 4 fois plus puissant, 10 fois plus machin, etc. Avec toujours une espèce de faux enthousiasme. Je trouve qu'on a un peu atteint la limite de l'exercice, quoi, en termes de présentation.
Claudia.
Oui, mais ça marche à chaque fois, hein, parce que quand tu regardais dans la presse américaine, ça faisait des jours et des jours qu'on écrivait sur les potentielles annonces. Ouais. Là, tout le monde
les a repris. Il y a toujours cette attractivité.
Même les médias très grand public.
Oui, mais je ne remets pas en question les produits et la valeur qu'ils peuvent avoir, etc. Et l'intérêt du
journalistique. Mais c'est plus sa forme.
C'est la forme de la keynote qui est tellement surfaite, tellement américaine aussi. Ça manque énormément de recul. Enfin,
qu'on l'a trop vu, ou alors il faut imaginer d'autres formats.
Pour l'anecdote, pour les fans de Pink Floyd, le campus d'Apple à Londres, c'est la pochette de l'album Animals, où on voit cette usine avec ses quatre grandes cheminées. Bah, c'est leur campus là qu'ils ont totalement retapé, qu'ils ont couvert avec une verrière et tout ça.
Bruno, alors ces iPads, tu vas t'en acheter combien?
Ah, ben, probablement une caisse, aussitôt
oui,
que c'est disponible.
Oui, bien sûr, évidemment.
Mais non, moi, ce que je trouvais intéressant, moi, je suis moins rabat-joie que vous concernant cette annonce-là. Écoutez, c'est un pitch de vente. Alors, c'est sûr que ça doit être fait au quart de seconde. C'est pas un événement en direct. Donc, évidemment, il faut que ça soit serré. Mais où j'ai trouvé ça un peu prétentieux de la part de Tim Cook, et d'ailleurs, tu faisais référence, François, c'est à l'ouverture, quand il dit que c'est... Pas probablement. C'est l'annonce la plus importante depuis le lancement de l'iPad en 2010. Je m'excuse, mais l'annonce la plus importante, c'est quand l'iPad
c'était
a été
l'iPad
plus grand.
Et c'était Steve Jobs. Voilà.
Oui, ben oui. Mais ça a été quand l'appareil est devenu plus grand ou plus petit. Oui. Mais au niveau de la puissance, chaque année, chaque présentation arrive avec son lot d'augmentation de puissance. Alors, puis dans le fond, c'est ce que c'est, hein. Avec un M4 dans le cœur de l'appareil, ben c'est sûr que ça va faire des pirouettes plus que le modèle précédent. Mais c'est tout. Sinon, il y a pas énormément. Puis j'avoue que j'ai eu un petit sourire à un moment donné dans la présentation lorsqu'on est rendu dans une bibliothèque. C'est la seule mention que j'ai vue où on parle vraiment d'intelligence artificielle. Ah, je dis, oh ben quand même, ils commencent à mentionner que l'intelligence artificielle est dans leur appareil. Alors ça, c'est bon signe. Ça nous prépare.
Des arrière-plans, ce qui montrait un peu, c'est que ça va être beaucoup plus facile d'enlever les arrière-plans, mais comme c'est le cas en fait déjà oui, depuis assez longtemps
sur d'autres appareils.
Sur d'autres appareils, mais c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est une très très grosse année 2024 quand même pour Apple. Tu le disais, il y a eu une baisse des ventes au niveau des smartphones, au niveau des iPads, tout ce qui est hardware, c'est compliqué. Et en fait, on le voyait quand même ces dernières années que Apple commençait un peu à se transformer en plutôt un modèle commercial de service. Aujourd'hui, tous les services d'Apple, c'est plus d'un quart des revenus. Le cloud, Apple Music, le stockage, etc. Sauf que ces services, aujourd'hui, sont en danger avec les différentes autorités de la concurrence.
Le DMA, les réglementations.
C'est ça. Donc, on peut un peu moins s'appuyer qu'avant sur la jambe service. Et donc, il y a des vraies attentes aussi de la part des consommateurs. Et c'est vrai, comme soulignait Bruno, finalement, tout est assez prévisible. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous a présenté, il y a des avancées. Effectivement, ça donne envie pour des professionnels du dessin, etc. et autres, mais pas du tout de révolution.
En fait, Apple rappelle aussi qu'il est un constructeur. Et là où tout le monde, on parle beaucoup d'IA en ce moment, alors ils sont tous éditeurs, Microsoft, Google, bon, une petite fonction constructeur, mais Apple là rappelle, et je trouve qu'il distille un peu, il pose un peu quelques pierres blanches pour préparer la suite en disant, bon, je vous rappelle, je suis un constructeur, donc voilà mes iPads, voilà mon CV, voilà ma puce aussi. Ouais. Je rappelle aussi que tous ceux qui ont sorti leur Dell, leur Lenovo, PC AI, notamment au World Congress, on en a vu beaucoup. Eh bien, moi, je suis dans cette course-là. Donc, je trouve qu'il y a un message qui est passé pour moi au niveau de la partie matérielle, quoi, de ce rappel d'Apple qui joue dans cette course aussi importante.
Après, la question, évidemment, ce sont des produits superbes. On est un peu taquin avec Apple, mais effectivement, on aime beaucoup cette marque. Et si vous nous suivez régulièrement, voilà.
Et la facilité d'utilisation d'un iPad,
voilà,
quand même.
L'iPad est incroyable. L'iPad OS est superbe, même si on peut regretter qu'il soit pas, enfin, qu'il nous permette pas d'avoir autant de productivité qu'avec un Mac, par exemple. Hein, c'est toujours le même.
Loin de là. C'est un vrai problème.
D'accord. Mais on se dit, tiens, peut-être que ça nous donne envie de s'offrir un nouvel iPad, mais pourquoi finalement? C'est ça la question. Mais qu'est-ce qui change par rapport? Parce que toute cette puissance, ok, d'accord, mais un iPad, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? C'est regarder des vidéos sur Netflix, peut-être jouer un peu, bosser, mais pas autant qu'avec un Mac ou un PC. Donc c'est vrai que. Et à chaque fois dans ces présentations, vous avez le musicien et le vidéaste. Mais bon, la Terre entière n'a pas que des musiciens et des vidéastes. C'est ça le problème. Oui, qu'on puisse gérer 4 flux 8K sur un iPad de dernière génération, ça prouve la puissance de l'appareil. Mais finalement, ça s'adresse à qui
Après, encore une fois, c'est un peu comme les lunettes. Hein, c'est dans le B2B, quoi. C'est le.
Oui.
C'est l'architecte. C'est ces métiers-là. Mais ces métiers-là, ça veut dire transformer une machine. Alors, autant le casque qu'on a sur la tête avant qu'il tombe.
Mais
tu as raison.
Là, on a quand même des appareils un peu plus fragiles.
Mais c'est vrai que tu vois, ça me fait penser un peu aux précédentes versions d'iPhone, quoi. Effectivement, c'est mieux. Mais pourquoi mieux et par rapport à quoi? Voilà, si on a un iPad qui a 4-5 ans, finalement, ça change quoi de prendre le nouveau, tu vois?
Mais alors, pas sûr. Moi, j'ai, dans mon entourage, moi, je ne suis pas très iPad, beaucoup plus ordi, hein, classique. Oui. L'iPad, je ne peux pas me satisfaire. À chaque fois, je tombe sur des murs, des choses que je ne peux pas faire. Mais j'ai dans mon entourage proche, des gens qui sont accros à l'iPad et qui attendaient ce nouveau modèle avec impatience parce qu'il n'y en avait plus depuis un certain temps et qui l'utilisent pour le boulot, pour la vie personnelle. Et c'est exactement mon antithèse, en fait. C'est-à-dire qu'ils font...
Oui, mais il attendait parce que ce sont des geeks fans
pas
d'Apple
du tout,
ou
pas
parce
du tout,
qu'il
non,
était plus assez puissant pour les usages au quotidien?
C'était plutôt ça.
D'accord.
Voilà.
Bruno?
Ouais, ben j'ai l'impression, c'est intéressant parce que c'est en vous écoutant que la réflexion m'est venue. J'ai l'impression que quelque part avec cette nouvelle génération d'iPad Pro particulièrement, on est en train de parler aux premiers clients d'Apple, donc tout ce qui est créatif. Et j'ai l'impression que c'est ces gens-là qui vont être rejoints par ça. En ce qui me concerne, moi j'utilise toujours mon mini iPad, mais à tous les jours. Et l'iPad, c'est justement, c'est un peu comme un livre sur une table. Et de temps en temps, quand je regarde les journaux, si je veux regarder une vidéo, je vais regarder là-dessus. Mais le gros du marché des iPad Pro, on s'entend, c'est tout ce qui est créatif au niveau du culturel, musique, design, puis aussi du côté des gens qui vont faire de la musique parce que c'est portable. Moi, je me souviens d'avoir vu dans mes classes, quand j'enseignais encore il n'y a pas longtemps à l'université, des étudiants qui avaient ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une console de son, ils avaient une console de montage vidéo sur une petite tablette qu'ils pouvaient glisser dans leur sac et c'était pratique.
Il y avait une petite vidéo, pour dire du bien quand même de cette keynote, il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, et je vous invite à aller la voir, qui montrait, c'était une allégorie de tout ce qu'on fait rentrer dans un iPad, tout ce qu'ils ont fait rentrer. Donc en fait, c'était... tout était compressé, il y avait un poste de radio, un poste de télé, même des pots de peinture, etc. Et cette vidéo montrait comme ça, et c'était tout ça coincé...
Tous les usages, en fait, qu'on pouvait...
Dans une énorme presse, elle était tout à fait vraie. Elle aurait pu s'appliquer à d'autres appareils, aux smartphones, etc. Et en même temps, moi, cette vidéo, elle m'a un peu ému, si je puis dire, parce que je trouve qu'elle symbolisait aussi la fin d'un monde. Et t'avais tout notre ancien monde qui était là, qui était compressé. Alors, pour sortir un magnifique produit, mais il y avait un petit côté triste, finalement. Qui était assez étonnant. Mais allez la voir, cette vidéo, elle est troublante.
Tu parlais de l'iPad mini, Bruno. Tim Cook a prononcé une seule fois l'iPad mini, c'était à la fin, quand il a dit, il y a le famine des iPads, il n'y a eu aucune nouveauté concernant l'iPad mini, mais malgré tout, il n'est pas oublié, puisque Tim Cook l'a évoqué, donc j'imagine que dans les stores d'Apple, on peut toujours acheter des iPads mini qui, eux, visiblement sont moins stratégiques, ils sont moins mis à jour que, on va dire, les iPads traditionnels.
Non, et puis dernière chose quand même, je pensais que tu allais dire autre chose quand tu disais tout ce qu'on mettait dedans, c'est tout ce qu'on met dedans quand même, plus 3 nanomètres M4, design ARM.
Ah oui, c'est l'excellence technologique d'Apple.
Il y a quand même l'appareil, visiblement, enfin moi on ne l'a pas eu en main, mais on fait confiance à Melinda pour les infos qu'elle a eues, il est beaucoup plus fin, donc c'est quand même...
Ouais, c'est cool.
C'est
plus fin que plein, dans 5 ans, c'est une feuille de papier. Hein.
Ouais.
Écoutez, voilà. Et déjà que l'écran est OLED, et je pense que c'est parce que justement l'écran
l'iPad
est OLED
pliant.
Qu'on gagne encore en millimètres.
On aurait pu avoir l'iPad pliant, c'est la prochaine.
Tiens, dans l'actu, il nous reste 3 minutes. Autre sujet lié à Apple, c'est ces centres en fait, de serveurs dédié à l'intelligence artificielle qu'Apple serait en train de préparer avec leur fameuse puce silicone, parce que c'est vrai qu'on voit que évidemment il y a Nvidia, évidemment il y a Qualcomm, etc., etc. Mais Apple ne veut pas rester sur le bas-côté de la route et visiblement travaillerait aussi à ces fermes d'intelligence artificielle générative. Je ne sais pas si vous avez vu cette actu.
C'est assez évident, moi, je trouve, parce qu'on voit, tu le disais, il y a Nvidia sur le marché des puces pour entraîner notamment les modèles. On a vu aussi Google aller comme le ferait Apple sur ce marché aussi. Pour moi, c'était assez inévitable quand même ce pas. Après, il n'y a eu pas pas beaucoup de précision. Apparemment, il travaillerait main dans la main avec des Taïwanais, évidemment, qui sont très en pointe sur ces sujets. Il n'y a pas de date ou autre chose, mais pour moi, c'est assez évident. Et quand les concurrents comme Google y vont, vous êtes obligés d'y aller aussi.
Google, elle s'était émue. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que l'IA, c'est un peu une combinaison. Il y a la partie algorithme, il y a la partie modèle de langage, si on est dans la partie générative, et puis il y a la partie processeur. Et alors, si on veut le plus puissant, on va prendre le GPU Nvidia, on va prendre des modèles de langage de ChatGPT 5 quand il sortira, et puis on a les algorithmes qu'on va faire tourner. Et puis, selon les besoins, on peut prendre aussi des puces. Et c'est ce que propose Google avec ses TMU. Donc, Apple se doit aussi de proposer, de dire je ne vais pas acheter que du Nvidia, je ne vais pas acheter que
si j'achète. Puis on sait qu'Apple aime bien être le seul, on va dire, auteur de sa recette.
Hein. Et puis ça verrouille. Ils verrouillent aussi les TSMC et tout ça aussi. Il ne faut pas oublier. Ils leur disent on est toujours là, les gars.
Hein. Ils ont des atouts puisque maintenant ils designent eux-mêmes leurs processeurs. Et en même temps, ils suivent le mouvement parce que tous, comme tu le dis, ces acteurs de l'IA aujourd'hui qui ont besoin du hardware, et ils veulent aussi surtout ne pas se retrouver pieds et poings liés avec Nvidia qui est devenu une espèce de.
Donc on a que les prix pouvaient être. Ouais, les prix étaient fixés par Nvidia en plus.
Donc l'idée, c'est vraiment, il faut naviguer à vue, il faut se sortir d'un côté. Globalement, il faut se sortir aussi des fabrications asiatiques. Mm-hmm. Et puis surtout au niveau américain d'Nvidia.
Et puis surtout que les développeurs vont chercher à faire des choses qui sont moins consommatrices. Mm-hmm. Enfin voilà, il va y avoir aussi une optimisation de ce côté-là. On n'aura pas toujours besoin de ces GPU. Ouais,
enfin, les fuites chez Apple, c'est bien, mais ce serait bien aussi qu'ils sortent quelque chose de concret, quoi. Parce que ça fait 2 ans qu'on est sur des fuites, donc à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein.
Bruno,
et Siri qui patauge dans la semoule de plus belle.
Ton point de vue, Bruno, pour terminer.
J'allais dire à Jérôme et à Frédéric d'être patient. C'est évident qu'on va avoir des nouvelles à la prochaine présentation quand ils vont finalement nous présenter les composantes IA à même leur appareil. Alors, probablement qu'ils vont, à ce moment-là, annoncer leur vue et leur intérêt du côté des centres de serveurs de données. Mais pour le moment, c'est de la spéculation. Hein. Et puis, on a quand même carburé pendant 10 ans sur une histoire de voiture autonome. Alors, soyons patients.
Ah oui, c'est vrai que tout ça a été jeté à la poubelle.
Oui, Fred, sinon pas annoncé d'IA générative, c'est peut-être parce qu'ils sont toujours en train de négocier avec OpenAI et Google. Quoi. Donc,
il faut qu'ils se dépêchent, hein, parce que la WWDC, c'est dans un mois, hein, les gars.